en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier honoraire, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord remercier évidemment ceux que vous avez appelés au nom de la séance, la présidente de la CAQ, Monsieur l'ambassadeur d'Afghanistan, que je connais depuis qu'il était tout jeune, puisqu'il était stagiaire de l'ENA à la préfecture de Périgueux il y a quelques années, nous nous sommes rencontrés, donc le monde est petit. Saluer évidemment les fondateurs qui sont parmi nous, Monsieur et Madame Le Foulon de la Lande, et enfin tout particulièrement avec chaleur et affection, notre confrère et ami, le secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, qui m'aide dans ma tâche de chancelier. Alors, mesdames et messieurs, le sujet qui m'a été proposé est un sujet que une grande partie de ceux qui sont dans cette compagnie connaissent déjà un peu, voire ont pratiqué. Il y a des diplomates de carrière ici. Et de surcroît, si vous en souvenez bien, j'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet en mars 2011, lorsque le président Bachelet, qui était président de l'Académie à ce moment-là, m'avait demandé d'évoquer ce que pouvait être, il était dans ses fonds baptismaux, ce que pourrait être l'Institut français. Et donc, j'étais intervenu à ce moment-là, j'avais déjà évoqué ce sujet. Je propose de faire un exposé qui sera en deux grandes parties, un diptyque. Une première partie où j'évoquerai plutôt les aspects historiques de la question de la diplomatie culturelle et de l'influence culturelle. Et puis une deuxième partie qui sera peut-être un peu plus chargée, peut-être plus problématique, sur la nouvelle donne mondiale, sur les nouvelles techniques de la communication, sur la question de la culture monde, donc, et des relations que peut entretenir une stratégie nationale dans le contexte mondialisé de la culture, et enfin des questions nouvelles qui se posent aujourd'hui, notamment celle de la réciprocité, voire celle de la restitution. Donc les sujets ont beaucoup évolué. Donc, dans ma première partie, je rappellerai rapidement les rapports, les relations étroites entre la diplomatie et la culture. Puis, je rappellerai la manière dont s'est organisée, s'est institutionnalisée la diplomatie culturelle. Et je décrirai son organisation actuelle dans le monde. Et puis, j'en viendrai ensuite à la seconde partie. J'y reviendrai à ce moment-là. Je vous rappellerai mon plan pour être aussi clair que possible. Du moins, je l'espère. Donc, dans l'exposé que j'avais fait en mars dernier, j'avais rappelé, à l'occasion de la présentation de ce que pouvait être l'Institut français, j'avais rappelé, c'était le moment des télégrammes de Wikileaks, si vous en souvenez, n'est-ce pas? Et les diplomates américains qui rédigeaient ces télégrammes se moquaient un peu de la manière dont la France procédait, en disant « la France est toujours cachée, je cite, derrière le facile paravent de la coopération culturelle ». Et il considérait que la France cherchait toujours une clé pour entrer dans les marchés économiques ou pour obtenir des succès industriels à travers ce processus, et que il fallait, disaient toujours ces diplomates américains, il fallait réactiver le soft power à l'américaine pour lutter contre cette tendance. Il y avait même un télégramme très célèbre, très amusant, qui disait « les Français arrivent avec un quatuor de Debussy et quand ils partent, ils vous ont vendu une centrale nucléaire ». C'était hélas faux, mais c'était une image qui illustrait la manière dont ils voyaient les choses. À dire vrai, c'était aussi trompeur, parce que nullement la diplomatie culturelle est-elle un paravent. Tout au contraire, la finalité principale de l'action culturelle, c'est pas du tout de se cacher, c'est au contraire de manifester une idée de la puissance à travers des compétences particulières, notamment des compétences dans le domaine de la culture, du patrimoine, de l'histoire des idées, de la littérature, et de ne pas s'en cacher du tout. On observera d'ailleurs, lorsqu'on voyage, lorsque on se déplace face à des interlocuteurs institutionnels, que personne ne trouve étrange que un Français parle de culture, que cela va de soi, c'est normalement accepté, et qu'on reconnaît volontiers à la France le droit d'avoir une prétention à la culture, même peut-être une prétention exagérée, mais enfin une prétention à un message culturel universel. Alors, cette idée, évidemment, s'est généralisée. Elle était peut-être plus française que mondiale, mais elle s'est généralisée. Et l'idée d'une puissance de conviction des nations qui passent par la séduction des idées, du savoir, de la culture et de la langue. Cette idée a été théorisée, comme on le sait, sous l'appellation de soft power. Je n'y reviendrai pas longtemps parce que tout le monde connaît cette notion. C'est inutile de revenir sur une notion rebattue. Mais au fond, elle n'est pas si nouvelle que ça. On se souvient de Talleyrand qui disait à ses ambassadeurs « Vous n'avez qu'une mission, deux points, faites aimer la France ». Eh bien, c'est exactement ce que cherche à faire l'action culturelle, à faire aimer la France. Toutefois, et ce sera mon premier point, il y a une particularité française dans le lien entre diplomatie et culture. Lorsqu'on regarde l'histoire de notre diplomatie, de la diplomatie française et peut-être la diplomatie européenne, mais enfin de la diplomatie française en tout cas, les premiers réseaux diplomatiques européens, et depuis la fin du Moyen-Âge, et notamment pendant la Renaissance, sont indissociables de ce qu'on a appelé par la suite la République des lettres. C'est-à-dire qu'en fait, la diplomatie, c'était le réseau des lettrés, des savants, qui communiquaient entre eux, qui échangeaient, et notamment au XVIe siècle, dans une Europe qui était divisée, dans une chrétienté qui se divisait, la fièvre humaniste a permis de contrecarrer les fractures de la Réforme. Et en quelque sorte, la République des lettres a produit son propre remède à ce que la culture divisait. On a vu à ce moment-là apparaître un système de correspondance entre hommes d'État et hommes d'Église, qui étaient tous des hommes de lettres, grâce auquel une nouvelle pratique des relations internationales se faisait jour. Le propre de ces ambassadeurs, de quelques pays qu'ils fussent, c'était cette culture commune dont vous parliez tout à l'heure, Monsieur le Président, cette culture gréco-latine, cette culture humaniste, qui leur permettait, souvent en français d'ailleurs, ou en latin, de converser, de négocier, d'échanger. Et finalement, tout ambassadeur, pour manifester qu'il était ambassadeur, devait être lui-même un homme de plume ou s'entourer d'hommes de plume. Rappelons, puisque je parle de la Renaissance, que le cardinal du Bellay a eu tour à tour comme conseiller, comme homme de proximité, d'abord Rabelais, et ensuite son propre neveu, le poète Joachim du Bellay. Et donc, on voit bien que cette Europe humaniste, au fond, elle considérait que être un ambassadeur, c'était être un homme des belles lettres, comme on disait, ou des beaux-arts d'ailleurs. Tout simplement parce que la culture permettait de parler et en conséquence de chercher la paix, et que parce qu'à travers la culture s'organisait une communauté de valeurs, une communauté de pensées et peut-être une communauté d'action. Cette idée a été, cette évidence a été beaucoup développée par la suite, et lorsqu'on parle du siècle de Louis XIV ou du siècle des Lumières, on implique quelque chose d'international, on implique un idéal qui transcende la nation et qui permet à une communauté de nations de partager des valeurs communes. C'est évidemment particulièrement vrai de la période de l'Aufklärung, de la période des Lumières. Au fond, d'ailleurs, dans la salle où nous sommes, nous pouvons le rappeler, ce fut l'intuition de Richelieu lorsqu'il a créé l'Académie française, où tout le monde croit souvent que l'Académie française a été créée pour simplement donner de la rigueur, de la clarté et de la norme à la langue. Mais plus encore, c'était de faire en sorte que cette langue soit si bien normée et si parfaite qu'elle puisse devenir une langue classique, qu'elle puisse devenir la langue de l'Europe, ce qu'elle est devenue un siècle après. On peut considérer que la création de l'Académie française a contribué grandement à créer un outil diplomatique qui a servi ensuite d'équivalent moderne au latin pendant tout le XVIIIe siècle. L'ambassadeur de Naples à Paris, qui s'appelait Caraccioli, l'écrivait en 1777, il disait ceci: « Jadis, tout était romain. Aujourd'hui, tout est français. » Il fallait que je fasse ce rappel avant de venir maintenant à un deuxième point qui est la manière dont se sont organisées ensuite, de manière plus moderne, les structures de la diplomatie culturelle. Au milieu du XIXe siècle, alors que l'élite européenne pratiquait encore très largement le français, on s'est bien rendu compte que l'Europe ne suffisait pas et qu'il fallait aller plus loin. Et en particulier, ce fut l'époque où la France s'est engagée dans des initiatives vers le Levant, comme on disait. Je rappelle que c'est en 1868 que le premier lycée impérial a été créé à Galatasaray, premier lycée impérial ottoman, dont le but était, par le lycée, de créer une administration capable de gérer l'Empire turc, de ce qu'on appelait l'homme malade de l'Europe, mais aussi de permettre que les enseignements soient en français, que le directeur soit français, que les professeurs le soient aussi. Et Victor Duruy a fait la visite, en tant que ministre de l'instruction publique, a fait la visite officielle qui convenait en novembre 1869, avant de se rendre en Égypte pour l'inauguration du canal de Suez, il y a 150 ans. Et là, on voit très bien que ce que tout à l'heure j'appelais une diplomatie fondée simplement sur la culture, devient une diplomatie fondée sur la transmission. Tenir les réseaux par lesquels les choses se transmettent d'une génération à une autre. Et ça prouve aussi que, contrairement à ce qu'on voit souvent écrit dans des documents sur la diplomatie culturelle, ça prouve qu'on n'a pas attendu 1870, c'est-à-dire au moment où l'affaiblissement de la puissance politique était visible en France, pour créer des réseaux d'influence comme les lycées français. On dit souvent que c'est à la suite de Sedan qu'on a commencé à penser à des missions culturelles qui pourraient compenser l'affaiblissement de la puissance politique française. Eh bien, on voit avec l'exemple de Galatasaray que c'était bien avant, que les choses avaient déjà commencé. Alors, ce fut l'époque du grand essor des missions catholiques, dont la majorité était française, et dont la République, laïque, voire anticléricale, avait parfaitement compris l'intérêt, et elle a soutenu ces missions, puisque c'est ainsi qu'on les appelait, ces missions catholiques, à Beyrouth, à Madagascar, et même jusqu'aux îles Sandwich, et Gambetta, à qui on faisait la remarque que cette république soutenait des missions religieuses, Gambetta avait répondu « L'anticléricalisme n'est pas pour moi un article d'exportation ». Naturellement, la République a donc soutenu, dès sa création, en 1883, un autre réseau, sur lequel je passe rapidement, mais que je dois évoquer tout de même pour être complet, l'Alliance française. C'est d'ailleurs dans un esprit laïque, cette fois-ci, face aux missions catholiques, que l'Alliance française a été conçue, solidement ancrée dans les idéaux des Lumières et de la Révolution, et aussi, peut-être l'a-t-on oublié, dans l'esprit de colonisation républicaine, dont Jules Ferry fut un agent très actif, comme vous savez, on lui a suffisamment reproché ensuite son attitude, notamment face à l'Indochine. Et ce n'est pas un hasard, si c'est en 1880 qu'apparaît pour la première fois le vocable de francophonie, dont on attribue la paternité au géographe Onésime Reclus. Francophonie, parce que Onésime le Reclus voyait déjà dans cette notion, dans ce projet, un moyen d'enrayer la langue française dans un monde qui était celui de la colonisation, et où il fallait à la fois affirmer évidemment la présence française comme colonisateur, mais il fallait aussi former les peuples, les indigènes, à la langue. Est-ce qu'on dira que francophonie et colonisation se confondent ? On aurait tendance à le penser. Ce n'est pas complètement vrai. Ce n'est pas complètement vrai sur le plan géographique et ce n'est pas complètement vrai sur le plan historique. D'abord parce que, je l'ai dit, le rayonnement de la langue française a de beaucoup précédé la colonisation, et que la présence du français dans le monde, lorsqu'on la regarde aujourd'hui, ne coïncide pas parfaitement avec les limites de l'empire colonial. voyez, au Liban, par exemple, l'importance des écoles françaises, elle est bien antérieure au mandat français qui lui survit aujourd'hui, 75 ans après l'indépendance du pays. De même en Égypte, pays qui n'a jamais été sous la domination française, excepté pendant la campagne de Bonaparte, la langue française a été longtemps et reste une langue de culture. Donc, certes, des coïncidences entre le territoire colonial et la francophonie, mais pas seulement. Le troisième point, c'est qu'une fois cet élan donné, il fallait structurer, il fallait organiser la diplomatie culturelle extérieure. Alors, je l'ai dit, elle s'est d'abord beaucoup appuyée sur les lycées, sur les missions, sur les alliances. Mais à partir de la Seconde Guerre mondiale, la France, comme pour le conjurer, comme conjurer son déclin, a eu conscience que son rang dans le monde passait par une politique massive et soutenue de promotion et d'exportation de la culture française. Je parle aussi sous le contrôle des diplomates. À partir des années 50, pendant 60 ans, l'obsession du Quai d'Orsay sera comment faire une seule et vaste institution qui gère tout cela sous la houlette des affaires étrangères. On ne compte pas le nombre de rapports, de livres blancs, de missions de toute nature qui l'ont proposé 100 fois. Jean-David Lévy a même participé à la rédaction de quelques-uns, jusqu'à ce qu'on arrive à l'Institut français dont je parlerai tout à l'heure. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée qu'il fallait, à partir de ce réseau diffus et incomplet, qu'il fallait arriver à faire une unité et que cette unité est une seule tête politique, ou en tous les cas qu'elle est un seul lieu d'influence, cette idée, évidemment, est présente pratiquement à partir du tout début des années 1950. On voit d'ailleurs, dès ce moment-là, grandir les instituts français, qui ont des noms les plus divers, mais peu importe, où on organise des conférences, des cours de littérature française, de langue française, de civilisation française. La première génération choisit évidemment les capitales, Londres, Florence, Lisbonne, Stockholm. Et puis ensuite, une deuxième génération qui correspond au fond à des territoires d'influence en proximité de l'Europe, Beyrouth, Téhéran, en Afrique évidemment, et après la Seconde Guerre mondiale aussi en Allemagne, puisque lorsque le général de Gaulle et le chancelier Adenauer décideront de fonder une partie de la politique européenne sur le rapprochement franco-allemand, sur l'amitié franco-allemande, de même qu'il y aura des jumelages de villes, vous vous souvenez, toutes les villes se sont mises à se jumeler partout, entre les villes françaises et les villes allemandes, la moitié des instituts français d'Europe étaient en Allemagne. Il y avait pratiquement un institut français dans chaque Länder ou dans chaque capitale régionale outre-Rhin. Plus tard, lorsque je serai moi-même en responsabilité de cela, dans les années 2005-2010, on aura tendance évidemment à fermer un certain nombre d'instituts en Allemagne pour récupérer des postes, pour aller en créer à Singapour, à Shanghai, à Wuhan ou que sais-je, on le comprend. En 1945, le Quai d'Orsay crée une direction générale des relations culturelles qui vient remplacer le service des œuvres françaises à l'étranger qui datait de 1920. Les premiers postes de conseiller culturel ambassade sont créés en 1949. Ce renouveau, je l'ai dit, est secondé par l'Alliance française qui développe un réseau immense dans les années 50 et dans les années 60. Et si bien que la France a fini par s'habituer à s'appuyer sur cette double structure, d'une part les instituts culturels proprement dits, et d'autre part celui des alliances françaises. Il y a même un moment où finalement on choisit l'un ou l'autre. En 2010, il n'y avait pas d'institut français en Inde, par exemple. Le réseau n'était qu'alliance française. Il n'y avait pas d'institut français en Argentine. Il y avait une alliance française de Buenos Aires. La création d'un institut français a permis de faire des rapprochements. Parfois difficile. Lorsqu'on a voulu créer un institut français à Abu Dhabi, l'Alliance française s'est insurgée en disant « Comment, on est déjà là, de quoi je me mêle ?» On a voulu faire un rapprochement local qui a bien marché et du coup, la directrice de l'Alliance française d'Abu Dhabi a été licenciée. Donc, les choses ne se faisaient pas si facilement, mais enfin, elles se faisaient tout de même. Bref, petit à petit, la nécessité de se coordonner a sauté aux yeux, d'où la création de l'Institut français, créé dans le cadre de la loi du 27 juillet 2010, loi qui portait sur l'ensemble de la politique extérieure de la France et qui avait un chapitre consacré aux questions culturelles. Création de l'Institut français à partir du 1er janvier 2011. Dès le mois de juillet, un préfigurateur est nommé pour créer cet institut. Excusez-moi de le dire, puisque c'était, j'étais celui-là. Et à partir du 1er janvier, le préfigurateur est nommé président exécutif avec véritable pouvoir sur un établissement public mondial qui permet d'avoir au moins, en tous les cas, un interlocuteur unique. Désormais, tous les instituts français ont la même marque. Où que vous voyagez dans le monde, vous allez retrouver l'Institut français avec ses grandes lettres bleues. Tous les conseillers se retrouvent pendant l'été, au mois de juillet, pour essayer de se mettre d'accord sur les stratégies. Les personnels de conseillers, d'attachés et les responsables des alliances françaises se retrouvent régulièrement pour définir des politiques communes. Bref, bon gré, mal gré, l'unité d'action s'est enfin dessinée. On avait même pensé aller plus loin, puisque la loi le permettait, qui consistait à créer des établissements rattachés directement à l'Institut français Paris, dans des pays, de sorte que chaque pays est un agent, en quelque sorte, de l'Institut français monde, qui fasse la même politique partout. On ne sera pas surpris d'imaginer que ceci n'enthousiasmait pas beaucoup les ambassadeurs, qui avaient déjà perdu une partie de leurs compétences dans le domaine économique à cause de la création de diverses de Business France ou de diverses structures de ce genre qui s'appellent Atout France désormais. L'idée que leur directeur d'institut culturel dans leur propre pays n'obéisse qu'au président d'Institut France à Paris ne les enthousiasmait pas non plus. Enfin, cette expérimentation a été faite dans 13 pays tests, dont je vous donne la liste pour vous montrer qu'on avait essayé de voir comment la diversité des pays permettait d'agir. Chili, Royaume-Uni, Serbie, Géorgie, Danemark, Sénégal, Ghana, Singapour, Cambodge, Inde, Koweït, Syrie et Émirats Arabes Unis, qui permettait de professionnaliser le réseau, d'améliorer la formation, de créer une sorte d'administration de la culture qui pourrait passer d'un poste à l'autre. Tout ceci n'a pas complètement abouti parce que d'abord c'était extrêmement coûteux. D'autre part, il s'agissait de faire à terme, si on rattachait tous les instituts français à Paris, il s'agissait de faire 8000 feuilles de paix à partir de Paris, avec les statuts les plus divers, recrutés locaux, fonctionnaires détachés, enfin pour tout ça, a fait peur aux ministres et finalement, il y a eu un recul. L'Institut français est resté comme établissement public, mais le rattachement direct des instituts français dans les pays concernés n'a pas été décidé. Ce qu'on peut constater tout de même, c'est que le réseau culturel français est le premier du monde désormais. Il compte 98 instituts français dans les divers pays, 850 alliances françaises qui accueillent un demi-million d'étudiants, un petit peu plus. Et donc, au total, quand même, le réseau culturel est devenu un instrument efficace, identifiable, qui peut jouer à armes égales avec nos grands concurrents. Je disais, par exemple, que nous avons 98 instituts français. Je ne parle pas aussi d'autres structures qui permettent d'être présents. Nous sommes présents dans 110 pays. Eh bien, le British Council qui a été créé dans les années 30 et qui s'était beaucoup développé après la colonisation était présent dans le même nombre de pays avec moins de bureaux, 200 bureaux, alors que là, j'ai parlé, comme je viens de le dire, de près de 850 alliances françaises. L'Institut Goethe, le Goethe-Institut, qui a été fondé en 1951, est présent dans 90 pays, l'Institut Cervantes dans 86 villes, notamment en Amérique latine. Et donc, l'Institut français, le réseau culturel français, est aujourd'hui encore le premier du monde. Plus pour très longtemps, preuve d'ailleurs que la politique culturelle est une politique diplomatique essentielle, puisqu'aujourd'hui se développe à une vitesse considérable le réseau des instituts Confucius, et après 15 ans d'existence seulement, les instituts Confucius sont deux fois plus nombreux en ce qui concerne les établissements dédiés à l'enseignement du mandarin et de la diffusion de la culture chinoise que les établissements destinés à l'enseignement du français dans le monde. Donc tout ça va à une vitesse folle, quiconque voyage le sait, il suffit d'aller en Afrique pour le voir, partout poussent des instituts français énormes, et donc tout cela montre que ce n'est pas en vain qu'on parle de soft power tout de même. Voilà pour la première partie. Je voulais rappeler un peu la donne. J'ai été un peu rapide, je vous prie d'en excuser, mais ces sujets sont quand même bien connus les uns et les autres. Nous venons peut-être un peu aux questions plus complexes désormais. Quelle est la situation aujourd'hui ? D'abord, il faut le constater, le magistère d'un pays sur la culture dans le monde, que prétendait avoir la France, mère des arts, des armes et des lois, ou que prétendait avoir d'autres pays, que sais-je, ce magistère, évidemment, est aujourd'hui complètement annihilé par la mondialisation culturelle. D'abord parce que la langue anglaise s'est imposée, tout simplement, partout, dans tous les registres, scientifiques, diplomatiques, économiques, que le monde anglo-saxon a capté la culture de masse, notamment le cinéma, et que les Américains sont indéniablement les premiers grands bénéficiaires de cette mondialisation. Mais aussi parce que, indépendamment de ce problème, j'y reviendrai, l'américanisation, elle est peut-être moins évidente qu'on ne le dit, mais enfin, je vais en dire un mot tout à l'heure. Mais enfin, en tout cas, elle est là, et que d'autre part, évidemment, le tout numérique, le fait que les cultures soient hybrides, qu'elles échangent d'un pays à l'autre, qu'il y ait une montée en puissance des acteurs privés, et quels acteurs privés ? Hein, lorsque M. Bill Gates est capable de mettre 1 milliard sur la table pour faire de l'action culturelle ou de l'action philanthropique, on est un peu court derrière, hein, que les codes d'influence se sont renouvelés, que la société civile se considère comme aussi un acteur majeur, que des ONG se mettent à s'en occuper. Donc du coup, la donne est mondialisée, mais surtout elle est un peu comme l'infini pascalien, sa circonférence est nulle part et son centre sa circonférence est partout, son centre nulle part. On ne sait plus où on en est exactement. Il n'y a plus un levier unique qui permette d'agir. Même pas les grandes institutions internationales qui étaient censées le faire, comme l'UNESCO, que sais-je. Et donc, cette espèce de magma permanent d'échange ne peut plus s'inscrire dans ce qui était une stratégie comme celle que j'ai décrite tout à l'heure, soit des années 1870, soit d'après la Seconde Guerre mondiale. Les moyens d'agir de manière unique sont évidemment beaucoup plus compliqués. C'est l'enjeu majeur. Et nous allons voir d'ailleurs, tout à l'heure, je montrerai que cet enjeu majeur, c'est compliqué avec des logiciels nouveaux, mais j'y reviendrai. Toutefois, il y a deux remarques à faire sur cette uniformisation. La première, c'est que on a peut-être à tort imaginé qu'il fallait baisser les bras en disant, voilà, le monde est américanisé par sa culture, il est uniformisé, on ne sait plus exactement comment on peut lutter contre lui. D'abord parce qu'il y a encore une diversité culturelle qui se fait contre l'américanisation. Les mangas japonais, le cinéma est-asiatique ou indien, l'émergence des stars africaines de la musique, l'art contemporain chinois... Et même aussi, d'ailleurs, un certain nombre de défenses de langues qui ne sont pas l'américain, parce qu'elles sont l'autre de l'américain. En particulier, un développement de l'enseignement du français aux États-Unis lié à la résistance anti-américaine. Ça sera le cas, par exemple, sans aucun doute, dans les années qui viendront, dans des pays comme l'Iran ou la Turquie. Donc, la globalisation, elle a créé un monde sans doute uniforme, mais dans lequel il y a encore du concurrentiel. Il y a encore des circulations d'influences et cette horizontalité permet à des acteurs qu'on pourrait croire écrasés par la vague américaine, elle leur permet de tirer leur épingle du jeu. C'est le cas évidemment du patrimoine français. Nous en avons un exemple tout récent. La presse internationale a parlé de Notre-Dame de Paris d'une manière comparable à ce qu'on aurait pu dire ici en France. L'émotion a été générale. Et on voit bien donc qu'il y a une capacité de se faire entendre dans cette hybridation, dans cette circulation horizontale et globale qu'on appelle la culture monde. Notion de culture monde. Cependant, elle est vraie, cette culture monde. On est passé sans se rendre compte très rapidement, un troisième âge de la culture avec un processus d'accélération que personne n'a vraiment maîtrisé. Le premier âge de la culture, c'était celui de la transmission verticale. On transmettait ce dont on avait hérité et la tradition. C'était ce qu'on voulait faire lorsqu'on créait des missions ou des lycées, ou lorsqu'on allait inaugurer un lycée à Galatasaray, on transmettait. Le deuxième a été lié au progrès industriel, celui de la conception nouvelle, de l'avant-garde, de l'innovation, de la rupture. La culture, c'est ce qui changeait, c'est ce qui apportait autre chose, c'est ce qui allait plus loin, c'est ce qui libérait aussi, beaucoup. Et il fallait être absolument moderne, vous vous souvenez de la formule de Rimbaud, hein ? Je parle pour les spécialistes de Rimbaud qui sont ici. Et puis le troisième stade, c'est celui dont nous parlons à l'instant, cette culture monde, où alors là, les flux ne connaissent aucune barrière, la consommation est mondiale, il n'y a plus d'hierarchie de classe, de qualité, il n'y a plus de géographie, les réseaux numériques sont complètement impossibles à maîtriser. Et évidemment, là, dans ce changement profond, évidemment, l'industrie devient, la culture devient surtout une industrie. Ceux qui maîtrisent les outils culturels, ceux qui ont les outils de communication, évidemment, sont ceux qui vont l'emporter. On parle des GAFA aujourd'hui. Les GAFA, ce sont des outils de transmission de la culture et du savoir, fondamentalement. Les livres s'achètent sur Amazon, les informations de toute nature, les spectacles, les films passent par des réseaux numérisés, et donc plus personne ne les domine. L'industrie culturelle, aujourd'hui, seulement en France, fait travailler 1,3 million de personnes. C'est deux fois plus que l'industrie automobile. Elle rapporte 83,6 milliards d'euros, dont 2,7 milliards à l'export. Donc, même en France, ces chiffres importants montrent que nous sommes entrés dans une logique industrielle de la culture. Alors, ces phénomènes décident aussi une nouvelle géographie. On voit disparaître les frontières nationales, on voit apparaître des critères d'appartenance identitaire, on voit apparaître un parti pris culturel qui considère que le numérique est non seulement le moyen de la culture, mais son objet. C'est la création par le numérique qui est la finalité de la culture. On voit apparaître des enjeux que nous ne connaissions pas. Je vais en donner juste un exemple qui intéressera très directement le secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, qui est la question de la restitution. Le dernier rapport écrit sur les musées, que j'ai ici, je ne sais plus ce que j'ai fait, voilà. Le rapport Sarre-Savoie, qui est paru il y a quelques temps, nous explique clairement que les deux tiers des objets qui sont dans nos musées devraient être rendus. À qui ? À quoi ? Pourquoi faire ? Et que, d'ailleurs, le musée comme institution d'influence en France, comme lieu de visite, doit être reconsidéré. Parce qu'il hiérarchise précisément, parce qu'il est dans la vieille école, de la vieille école de la transmission, ce que j'appelais le premier stade tout à l'heure, et qu'il prolonge des valeurs qui ne sont plus celles d'aujourd'hui, celles de la colonisation, de la hiérarchisation des cultures, de l'exposition sous forme d'exotisme de ce qui est l'essence même d'une culture dans un pays comme certains pays d'Afrique. Et donc il est urgent de faire l'inventaire de tout cela et de le rendre. Mais pendant ce temps-là, en Chine, cette année, en 2019, on va inaugurer 200 musées, sans aucun complexe, où on exposera ce qu'on aura récupéré ici ou là. Et donc, cette culpabilisation proprement occidentale de la culture dans ce qu'elle a dans la manière dont elle est considérée comme étant néocoloniale, évidemment, est une spécificité européenne. Et donc, quand je dis que ça dessine une nouvelle géographie, ça dessine une nouvelle géopolitique, au fond, finalement, puisqu'on va voir, donc, des musées que nous allons fermer ici pendant qu'on ouvrira ailleurs, ou peut-être on va voir autre chose dans les musées, on va voir des musées qui vont évoquer autre chose que la culture à laquelle nous tenions, qui va montrer au contraire que la culture n'est qu'un instrument d'un dialogue avec d'autres cultures. Je suis allé très récemment, comme vous tous, j'imagine plusieurs d'entre vous le connaissent, au musée d'Abu Dhabi. Il est entièrement organisé autour de cette idée qu'on met en scène, à partir de thématiques communes, des œuvres qui viennent des civilisations les plus diverses et qui dialoguent. C'est d'ailleurs absolument magnifique, je ne discute pas du tout. Mais nous sommes évidemment dans ce que j'appelais la troisième étape de la culture. Nous ne sommes pas dans la hiérarchisation ni dans l'innovation. Nous sommes dans l'obligation de mettre ensemble des éléments qui parlent. Le culturel, au fond, désormais, c'est une sorte de langage universel dont personne n'a la maîtrise, où aucune hiérarchie ne se dessine, où personne ne parle à autrui pour imposer sa voix, et qui se construit autant qu'il le peut à partir de ce dialogue lui-même. Je ne porte en disant cela aucun jugement de valeur, c'est une conception très heureuse de la culture et très enrichissante, que je ne discute pas, mais évidemment ça change un peu la donne par rapport à l'idée qu'on se faisait des outils culturels français notamment, et des outils de la diplomatie culturelle. De même, derrière cette globalisation théorique, cette conceptuelle, je devrais dire, il y a évidemment une globalisation industrielle, le numérique qui est entre les mains de ceux qui sont capables de le produire, les médias qui sont capables de continuer à exister dans cette concurrence acharnée, les centres d'innovation dans le domaine du numérique qui sont partis vers le sud, alors à Shanghai, à Johannesburg, à Nairobi, à Sao Paulo, qui ne sont plus en France. Bref, au fond, ce qui est nouveau, ce n'est pas seulement le concept culturel, c'est les moyens de la communication des produits culturels et c'est ceux qui en ont la maîtrise. Je disais tout à l'heure que j'y insisterai une seconde parce que je vais vous montrer à quel point les choses vont vite. Les industries culturelles ont évidemment pris conscience de qui est leur consommateur. Le consommateur, ce n'est plus le visiteur de musée. C'est du temps qui circule et qui va de statue en statue en expliquant à ses enfants ce qu'il faut voir. Le consommateur, c'est maintenant quelqu'un qui a comme récepteur de l'objet culturel son téléphone, pratiquement, ou sa tablette, et qui consomme de la culture pendant l'attente d'un rendez-vous chez le dentiste ou pendant cette ou huit stations de métro. Et donc, tout est organisé désormais pour que ce désir de consommation culturelle soit satisfait. Là, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Studio Plus, qui appartient au groupe Canal, a déjà proposé une application qui permet de voir des séries sur mobile qui sont toutes construites sur la même temporalité, 10 épisodes de 10 minutes. Comme ça, tous les matins, vous pouvez en dire un, le matin quand vous rentrez le soir, vous en lisez un autre. Ça change tout, évidemment. On a même aux États-Unis désormais un logiciel qui s'appelle Speed Watching, qui permet de regarder le premier et dernier épisode d'une série et d'avoir un résumé en accéléré de tout ce qui est entre les deux. On a même mieux que ça, un logiciel qui permet de dire combien de temps on pourra consacrer à l'épisode que l'on veut voir. On vous dit cet épisode dure 55 minutes. Ah, j'ai que 45 minutes. On s'en occupe. Et donc, le logiciel accélère les endroits qui ne sont pas absolument nécessaires, coupe les paysages, etc. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Si vous avez Netflix chez vous, je vous signale qu'il existe déjà une fonction ignorer le générique qui permet d'aller directement au moment pour ne pas... Et il y a même maintenant des plateformes de téléchargement, des open load, qui permettent d'accélérer le défilement lorsqu'on le veut à la demande. Bref, ce que je veux faire entendre par là, on pourrait citer d'autres exemples, c'est que quand j'entends dire « oui, l'influence culturelle française, c'est plus qu'à... » Les questions ne sont plus là. Bien sûr, c'est une question centrale que la mondialisation de la culture, que la volonté de faire entendre encore ce que nous sommes en particulier. Mais les outils, les moyens, les truchements sont en train de changer complètement la donne. Alors, est-ce qu'il faut désespérer ? Non, évidemment, c'est ce que vous en doutez bien. Je voudrais revenir cependant à ce par quoi nous avons commencé, c'est-à-dire comment, au fond, la France peut, et la francophonie, peut s'inscrire dans cette culture monde. D'abord, la situation de la France est particulière à cause de la francophonie. Ce n'est pas le même problème en Italie, même si l'Italie a un prestige considérable sur le plan de son patrimoine, il n'y a pas un univers qui parle italien. Bon. C'est vrai évidemment un peu pour l'espagnol, c'est partiellement vrai pour le portugais à cause du Brésil, mais enfin, la francophonie a ce titre particulier qui est une sorte d'ubiquité. Et si vous vous souvenez, lorsque le président Macron est venu parler de la langue française, ici même, sous la coupole, il y a un peu plus d'un an, il a insisté sur cela. Il a dit, nous avons quelque chose, nous avons une chance quand même qui fait que, même si c'est un peu démodé, nous avons le réseau des francophones et des francophiles et qui occupent une place importante. Lorsqu'on regarde les chiffres, d'ailleurs, ces chiffres sont en effet intéressants. Il y a 275 millions de francophones, en gros. Ils augmentent de 1% par an. Souvenez-vous ici, Lionel Zinsou nous avait insisté beaucoup sur ce phénomène en Afrique notamment. Le français est la cinquième langue la plus parlée au monde. Les statistiques de l'OIF montrent que le 125 millions de Français, de personnes apprennent le français comme langue étrangère. 76 millions l'utilisent comme vecteur d'enseignement. Et en Afrique subsaharienne, comme vous le savez, le monde de francophones s'accroît très régulièrement. Il s'est accru de 15% en 4 ans, entre 2012 et 2016, et même de 36% au Sénégal. Donc, je me permets de le rappeler, la situation de la diplomatie culturelle française a cette spécificité de s'adosser ou de s'inscrire dans l'univers francophone. Et cet univers francophone a aussi ses outils. On pourra les discuter, peu importe, mais enfin, nous avons TV5 Monde, France 24. Enfin, France 24, c'est quand même tous les jours plus de 50 millions de spectateurs, tous les jours. C'est quand même c'est un chiffre important. RFI, bien sûr. La langue française reste une langue d'instance internationale. C'est une langue de travail de l'ONU. C'est la langue procédurale de l'Union européenne. Monsieur Guillaume pourrait nous le dire. C'est la langue unique utilisée dans les délibérés de la Cour de justice de l'Union européenne, etc. Donc, il y a cela. Et si vous vous souvenez, Jacques Attali avait remis un rapport au président de la République en 2014 qui s'appelait « Francophonie et francophilie, moteur de croissance durable ». Ce rapport sur la croissance durable dont la francophonie et la francophilie étaient un élément essentiel, ce rapport insistait beaucoup sur ce que je viens de dire ici, c'est-à-dire on ne part pas de rien. Un certain nombre d'outils nouveaux peuvent être créés à partir de ce fondement très riche, notamment évidemment notre capacité d'attraction autour du monde diplômant, du monde universitaire, ce qu'on appelle les MOOCs, les formations en ligne ouvertes à tous, qu'on appelle nous flotte, mais personne n'a utilisé ce terme désormais, on continue à les appeler MOOCs. Les populations francophones qui veulent venir se scolariser en France, la distribution de manuels scolaires génériques qui se développe désormais dans les pays africains notamment, la capacité d'attraction de la musique et du cinéma français qui reste très forte. Bref, nous ne partons pas de rien. On observera cependant que notre action diplomatique a flotté face à cela. Alors, il y avait le point de vue, je dirais, d'Attali, c'est-à-dire il faut, à partir de cela, faire un forum francophone des affaires, qui existe d'ailleurs. Et puis, il y a aussi un autre point de vue qui est de dire, oui, bon, il faut s'appuyer sur cela pour développer un réseau de systèmes éducatifs. À juste titre, puisque les logiciels éducatifs, les outils scolaires, les outils d'apprentissage, les vocational training de toute nature qui sont aujourd'hui dans le monde entier ne sont pas suffisamment français. Et or, il y a des programmes financés par les bailleurs internationaux qui sont considérables. Le programme de la Banque mondiale qui s'appelle Education for All, par exemple, est extrêmement bien doté. Et il faudrait que nous essayions de faire entendre notre capacité à être des éducateurs pour tous avec des logiciels qui soient construits en France. Hélas, ce n'est pas toujours le cas. Dans des pays francophones à forte croissance démographique, je pense par exemple à la République démocratique du Congo, 40% des enfants n'atteignent pas le niveau d'éducation en fin de primaire, et ce pays, pourtant la RDC, reçoit des bailleurs internationaux 10 fois moins d'aide que le Bangladesh pour une population 2,5 fois plus importante et pour un taux de scolarisation inférieur de 20 points. Donc on voit bien que nous ne sommes pas assez présents dans le lieu où se décide à qui sont dédiés les fonds pour soutenir des systèmes éducatifs ou pour mutualiser des logiciels éducatifs. Nous avons évidemment essayé de lancer des projets avec d'autres pays francophones, le Canada, la Belgique et la Suisse, en soutenant par exemple le projet qui s'appelle 100 000 professeurs pour l'Afrique, qui a été lancé en 2013. Mais quelle était la dotation de ce 100 000 professeurs pour l'Afrique ? 1 million d'euros. Education for All, c'est 6 milliards. Voilà. Donc, nous avons les fonds, le fonds de soutien prioritaire, les FSP, que connaissent bien les diplomates, mais là aussi. Bon. Donc, nous ne nous donnons pas les moyens de développer les manuels scolaires et les logiciels dont nous avons besoin pour mener cette stratégie diplomatique fondamentale qui est de former les jeunes générations, y compris des francophones, aux outils éducatifs et culturels qui sont les nôtres. D'où cette espèce d'américanisation générale, y compris dans le domaine linguistique. Les industries du contenu, musique, livres, cinéma, jeux vidéo, logiciels linguistiques, sont des outils fragiles et coûteux, qui se démodent rapidement, qu'il faut renouveler sans arrêt. Et ce n'est plus dans les moyens, semble-t-il, de la France de les renouveler, alors que Google, Apple, eBay, Amazon sont sans arrêt en train de les réinventer. Maintenant, ils utilisent même des petits avions qui vous apportent directement des drones dans la journée et les livres que vous commandez alors que vous allez chez votre libraire. Bref, on n'est pas compétitif. Je pourrais développer ici les outils dont nous disposons encore, mais en les lisant, j'aurais le sentiment en même temps d'évoquer des outils très institutionnels et finalement peu opératoires. L'Agence unificante de la francophonie, l'Association internationale des maires francophones, l'Agence francophone pour l'enseignement supérieur et la recherche, la Conférence des ministres de l'éducation des pays en commun le français, l'Assemblée internationale des parlementaires de langue française, l'Union des journalistes et de presse française, bref, et tant d'autres. L'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, bien entendu, qui, elle, en effet, est un réseau important de nos lycées. Mais on voit bien qu'en faisant défiler ces structures, on montre une présence, une action de la volonté politique. Mais par rapport à la dimension matérielle, financière, et tactique, stratégique des grands opérateurs internationaux, évidemment, nous sommes un peu légers. J'ajoute d'ailleurs que non seulement nous sommes légers, mais nous ne faisons aucun effort pour enrichir les choses. L'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, qui est un outil absolument formidable d'influence, c'est-à-dire l'agence qui gère des lycées français à l'étranger, se bat chaque année pour obtenir 3 sous supplémentaires. C'est à peine si on ne lui demande pas de fermer des établissements. Enfin, on est quand même très contraint. Or, c'est un réseau extraordinaire, puisque toutes les élites locales veulent que leurs enfants soient dans les lycées français. Nous gardons le CIEP, qui est un opérateur public de référence pour former et diplômer les gens qui instruisent en français dans les pays du monde. Nous avons, je le répète, nous avons Campus France aussi. Bref, mais pour dire ce résumé, je dirais que cette armée mexicaine ne fait pas une politique. Et que rien ne paraîtrait plus nécessaire que de recréer un mystère en charge uniquement de la francophonie et de l'action culturelle et historique de la France, qui n'a plus existé, non pas pour pleurnicher ou pinailler sur le français d'autrefois, que sais-je, mais pour fédérer les lieux militants, pour orienter leur action vers les leviers économiques et pour prendre pied dans les lieux où les logiciels nouveaux se développent. C'est ce qu'a fait Ubi France, devenu Business France et Atout France dans un secteur qui lui est propre. Mais ça reste, je le répète, un peu marginal. Alors, je m'achemine vers ma conclusion en ayant peut-être passé un peu rapidement, mais j'ai déjà parlé près de 3 quarts d'heure, je vous prie de m'en excuser. Vous vous souvenez de la formule assassine de Jean-François Revel qui disait ceci: « Depuis le temps que la France rayonne, on se demande comment le monde entier n'est pas mort d'insolation. » Et il voulait ironiser par là sur l'idée que nous continuons à nous adosser à cette idée du rayonnement de la France, au fait qu'on nous attende partout, que nous soyons pleins de prestige, que les gens admirent notre culture, notre langue, notre savoir, nos beaux-arts, notre mode, nos parfums, que sais-je. Tout cela est vrai et c'est heureux. Lorsqu'on va au Japon, qu'on connaît bien notre société perpétuelle, les gens vous touchent votre cravate, etc. Ils ont le sentiment que si vous êtes français, vous êtes forcément à la mode. Bon, tout cela est vrai. Mais cette approche du rayonnement et de ce que nous avons à montrer, et cette idée que nous avons un modèle à proposer qu'il faudrait que les autres imitent, cette idée est inadaptée, évidemment, aux problèmes qui sont posés aujourd'hui par une politique d'influence. La politique d'influence, elle se fait non pas par une diffusion unilatérale d'une culture supposée supérieure ou plus intéressante que les autres. Elle s'organise par des réciprocités, par des interactions, par des échanges. Et c'est, sans aucun doute, nous sommes moins dans le risque de l'insolation que dans le risque de nous condamner à la nuit si nous ne jouons pas cela. Nous sommes obligés de considérer qu'aujourd'hui, la culture est un marché comme un autre, dans lequel il faut donner et recevoir. C'est vrai dans le domaine des technologies, c'est vrai dans le domaine des produits et des marques, mais c'est vrai aussi, tout simplement, dans les domaines les plus mercantiles, les jeux éducatifs, les contenus de loisirs, le tourisme, toutes ces questions. Je dois dire que le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, en avait parfaitement pris conscience lorsqu'il avait rattaché au ministère des Affaires étrangères et, évidemment, les outils de la culture. Quand j'étais président de l'Institut français, je le voyais au moins une fois par mois, et même pour des réunions assez longues. Il présidait lui-même, d'ailleurs, le conseil d'orientation de l'Institut français. Et surtout, il avait rattaché au ministère des Affaires étrangères la politique économique extérieure, enfin les échanges économiques extérieurs, et le tourisme. Et c'est dans les locaux de l'Institut de l'Académie, excusez-moi, du Quai d'Orsay, que s'organisait la présentation, par exemple, des grands guides touristiques français, y compris du guide Michelin. Alors tout le monde dit « Oh, comment le Quai d'Orsay, le guide rouge ?» Mais il a raison. L'ensemble de ces outils doivent concourir à créer une attraction des centres d'intérêt. Il faut considérer que la culture, cette fois-ci, est absolument partout. La question reste, et j'en terminerai par là, je saute un peu de ce que je voulais dire sur d'autres projets, peu importe, je répondrai à vos questions maintenant. La question reste quand même que dans cette globalisation dont je viens de parler et dans cette manière d'agir politique qu'il faudrait créer, il reste que la question du français reste très importante et que pour intéresser à la culture française, il faut d'abord continuer à considérer que le français est une langue utile, une langue de communication, et deux, que c'est aussi une langue de culture. Et qu'il faut donc continuer à avoir une politique de la langue. Or, on a parfois le sentiment, peut-être suis-je pessimiste, qu'on a un peu lâché là-dessus. On dit, après tout, ça fait rien. Voilà. Ici même, depuis que je suis chancelier, je le vois lorsque nous présidons des conseils d'administration de toutes sortes de nature, nous recevons maintenant des dossiers en anglais. Voilà, c'est comme ça, c'est fait. Bon, c'est peut-être un peu dommage. Je considère que la politique de la langue reste, même si ça paraît un peu démodé, présenté comme ça, mais enfin, je voulais vous le dire, ça reste un élément absolument central, un vecteur central de la politique culturelle tout court. Enfin, même si nous nous berçons un peu d'illusions sur cela, il reste que la langue française est très liée à notre histoire, à notre culture, à notre civilisation, à une conception d'humanisme, une conception des droits de l'homme, et que dans le contexte international où ces questions du droit des genres réapparaissent si fortement, à travers des lobbies de toute nature, quels qu'ils soient, sur le féminisme, sur ces questions précisément de la restitution, toutes ces questions où on revient à l'idée que, au fond, le droit des personnes est un élément essentiel des politiques culturelles et des politiques tout court. Je pense que la civilisation de l'universel, qui est le français, qui a une vision des droits de l'homme, je pense que la France a un rôle à jouer dans ce domaine-là, qui dépasse évidemment étroitement le culturel, mais qui en est un des agents absolument majeurs. Lorsqu'on est en Chine, par exemple, lorsqu'on est toujours très étonné de voir que les Chinois adorent le romantisme. Et en fait, c'est pas parce qu'ils aiment Lamartine, c'est parce qu'ils aiment Gavroche. Et que pour eux, le romantisme, c'est cette insurrection de la jeunesse. Donc, alors, il faut surtout pas leur dire que c'était pas vrai. Et donc, il y a partout cette sorte de... Et puis, dans ces pays, je le répète, la culture au sens ancien, la culture des talents, des architectes, que sais-je, reste extrêmement sollicitée, reste omniprésente, connue, admirée. Et il y a donc toute raison de rester optimiste.